Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le mercredi 28 janvier 2026. 22 points. 22 points, c'est le chemin qui nous reste à parcourir pour aller chercher les 7000 sur le S&P 500. 22 points, c'est 0,3% de hausse à gratter ce mercredi pour aller chercher les plus hauts de tous les temps et changer de milliers sur l'indice de référence américain. Alors oui, vous me direz que ça n'a pas grand-chose, ça n'est pas grand-chose et que ça vous fait une belle jambe que l'on soit au-dessus des 7000 ou en dessous. Et c'est vrai, ça ne change absolument rien. Je ne sais pas, je trouve simplement qu'il y a quelque chose de mythique à observer ces indices passer, ces milestones. Surtout que moi, je l'ai vu à 230. Ça va faire un sacré bout de chemin parcouru. Bref, le S&P va passer les 7000 ce soir, juste pour voir. Le nombre de casquettes vendues pour cette barrière mythique qui sera franchie n'est pas vraiment quelque chose d'important. Non, l'important en ce moment, c'est que l'on soit fermement convaincu que les Magnificent Seven vont nous afficher un quatrième trimestre de 2025 de folie et que plus rien ne pourra nous empêcher de monter. Il y a aussi la Fed qui ne fera rien ce soir, mais qui, on l'espère, nous donnera des indices sur la suite des événements et la prochaine baisse des taux à laquelle on pourra s'attendre. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que cette cinquième hausse consécutive de cet indice est surtout causée par l'optimisme dont nous faisons preuve pour la suite, pour ce soir surtout. Oui, parce que ce soir, après la clôture et après le discours de Powell, il y aura les publications trimestrielles de Microsoft, Tesla et Meta. Les déclarations de ces trois-là ont et auront le pouvoir de nous faire accélérer bien plus haut que les 7000 et de donner une ambiance optimiste pour le reste de la saison des publications ou alors de couler une chape de plomb sur les épaules des investisseurs. Il faut dire que si l'IA existe, c'est que les Mag 7 investissent et maintenant qu'on le sait, on attend avec impatience qu'ils nous montrent comment ils vont faire du fric et quel est le retour sur investissement. Ça n'est probablement pas ce soir que l'on saura tout, mais au moins on verra si les analystes ont placé la barre trop haut ou trop bas. Parce que ne soyons pas idiots, c'est la seule chose qui compte. En attendant, on y croit et ce soir, on saura aussi ce que compte faire Powell, ou en tout cas, on essaiera de savoir ce qu'il entend dans son discours codé avec des tout petits caractères en bas de la page. Par contre, au-delà des espoirs que l'on place dans les chiffres des grands de ce monde, il s'est quand même passé de trois choses. À commencer par ce qui s'est passé dans le secteur des assurances de santé aux USA. Pour faire simple, l'administration, via les centres Medicare et Medicaid sous la direction de Mehmet Oz, a proposé une augmentation des taux de remboursement pour Medicare Advantage de seulement 0,09% pour 2027. Autant vous dire que c'est pas du tout, mais alors pas du tout, ce qui était prévu par les experts qui s'attendaient à quelque chose comme 4 ou 5%. Le trou est donc énorme et toutes les boîtes impliquées de près ou de loin dans l'histoire du Medicare se sont fait littéralement massacrer. United Health clôturait en baisse de 20%. L'entreprise a également publié en même temps un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieure aux attentes. Et puis ailleurs, dans le secteur, Humana, qui est la plus exposée à la problématique, a perdu 21%. CVS Health a chuté de 14%. Alignment Healthcare a dégringolé de 12%. Et Elevance Health a reculé de 14%. Avant de paniquer et de sauter par-dessus bord en appelant au secours, il faut comprendre que ça n'est pas le taux définitif, mais uniquement le début d'une négociation. Mais disons que, vu le taux proposé, le gouvernement ne semble pas très enclin à la générosité cette année. Il faut dire que si on veut augmenter le budget de l'armée, il faut bien couper quelque part. C'était donc une sale journée pour les assureurs, un peu comme la journée du dollar. Le billet vert se retrouve au plus bas depuis plusieurs années. Entre les rumeurs de sauvetage du yen et les discours de Trump, qui est très très content de voir sa monnaie si basse parce qu'il fait un monstre business à l'export, le dollar n'est pas au mieux de sa forme. Autrement, Boeing a publié des résultats qui claquaient. C'est 9,92 $ par action alors que Wall Street attendait une perte. Sur le papier, c'est spectaculaire. Sauf que très vite, on a regardé derrière le rideau. Dans ces chiffres, il y a la vente de la division Digital Aviation Solutions. Résultat 11,83 $ par action sorti du chapeau. Sans ça, Boeing perdait encore environ 2 $ par action. Autrement dit, progrès oui, miracle non. Le titre a donc ouvert en baisse, il a rebondi, puis il a replongé. Loin de moi l'idée de faire une analogie avec la trajectoire d'un avion en difficulté, mais à la clôture, on affichait une baisse de 1,6%, un classique. D'autant plus que Boeing était déjà à plus 16% depuis le début de l'année. Les bonnes nouvelles étaient largement anticipées. Là où Boeing marque quand même des points, c'est sur les livraisons. 160 avions livrés au quatrième trimestre contre 57 un an plus tôt, et surtout une trajectoire claire. 737 max livrés en 2026, une production qui monte vers 47 avions par mois et un free cash flow redevenu revenu positif. C'est surtout ça que le marché veut entendre. Pas de chiffres comptables, des avions qui sortent des usines. Boeing n'avait plus fait de bénéfices annuels depuis 2018. Cette fois, la série s'est rompue. De justesse, mais symboliquement, avec un nouveau CEO aux commandes et des objectifs plus crédibles, Boeing avance enfin dans le bon sens, lentement, très lentement, même si le titre est en baisse à la clôture hier. Une chose est sûre, Boeing va mieux. Hier soir, dans la thématique des semi-conducteurs, il y avait aussi Texas Instruments. Texas Instruments a fait ce que le marché attendait depuis un moment, envoyé un signal positif. Pour le premier trimestre 2026, le groupe anticipe un chiffre d'affaires entre 4,32 et 4,68 milliards de dollars au-dessus des attentes. Pas spectaculaire, mais suffisant pour réveiller un secteur anesthésié. Réaction immédiate, plus 6% en after-close. Texas Instruments, c'est de l'analogique, pas de hype, pas d'IA magique, juste des puces qu'on retrouve partout dans l'industrie, dans l'auto, dans l'électronique, grand public. Quand Texas Instruments va mieux, c'est souvent que la demande réelle commence à revenir. Il faut dire que 2025 a été moche. Stock surdimensionné hérité de la période Covid, activité sous pression et une action en baisse de plus de 7% sur l'année. Le rebond de plus 13% depuis janvier ressemble donc moins à un excès d'optimisme qu'à un retour à la normale. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2025 est légèrement sous les attentes et le contexte reste flou. Les nouvelles menaces douanières de Trump ne ciblent pas directement les puces analogiques, mais l'incertitude commerciale et géopolitique continue de planer. Et puis, on peut encore parler de la confiance du consommateur. C'est d'ailleurs assez mythique parce qu'aux États-Unis, le moral du consommateur vient de se péter la gueule propre en ordre. La confiance chute à son plus bas niveau depuis 2014. Oui, 2014, avant Trump premier, avant le Covid, avant l'IA, avant tout ce cirque. Ces derniers mois, on avait pourtant l'impression que ça allait un peu mieux, un frémissement. Mais le dernier rapport du Conference Board vient de rappeler une chose simple. Les Américains flippent, ils flippent pour leur job. La peur de ne pas en retrouver un en cas de coup dur remonte en flèche. Ils flippent pour les prix, les anticipations d'inflation repartent à la hausse. En résumé, les marchés battent des records. L'économie fait semblant, même si on nous dit que tout va super bien. Mais pendant ce temps-là, le consommateur, lui, il n'y croit plus du tout. Et quand le consommateur américain doute, historiquement, ce n'est jamais une bonne nouvelle. Mais bon, c'est sûrement le gouvernement qui a raison. Voir un gouvernement se tromper, ça paraît quasi improbable. Globalement, les bourses asiatiques montent ce matin, tirées par la Sainte Trinité et le reste du monde dans la même thématique que les US hier. Il y en a qui mettent tout sur le rouge au casino, d'autres qui bluffent au poker. Mais là, on compte sur la tech et l'IA. Et les résultats des méga cap US, Wall Street enchaîne les records, le Nasdaq va bien, les futurs US continuent de grimper, les investisseurs se positionnent avant les résultats de Microsoft, Meta et Tesla, avec Apple demain, mais ça vous le savez, vous avez déjà dû l'entendre. L'idée est simple et basique, si l'IA continue de cracher du chiffre d'affaires, la fête continue, personne ne veut rater le buffet. Résultat, la Corée du Sud est en feu, le Kospi prend jusqu'à 2%, comme tous les jours, et grâce à SK, Enix et Samsung, comme tous les jours. Hong Kong s'emballe aussi, plus 2,4%, la tech en tête, et la Chine avance plus calmement, mais avance quand même. Le yen se renforce, et ça, c'est l'ennemi juré des exportateurs japonais. Résultat, Nikkei en baisse, même si les valeurs IA comme Renesas ou SoftBank limitent la casse, surtout qu'il y a des rumeurs provenant de personnes proches du dossier qui laissent supposer que SoftBank pourrait investir 30 milliards de plus dans OpenAI. La diversification est visiblement un modèle éculé chez SoftBank. En résumé, l'Asie parie sur l'IA et les résultats US comme les US. Le Japon fait souffrir ses exportatrices avec son yen qui vient de recommencer le bodybuilding. Le rendement de 10 ans japonais est à 2,23 et le 40 ans est à 3,90. Et du côté du pétrole, on parle toujours de l'Iran et des menaces des deux côtés. Le baril est à 62,83, l'or est à 5,290 et l'argent est à 114 pendant que le bitcoin est à 89 000. Pour terminer, le 10 ans américain est à 42,23. Et ce matin, ASML a encore fait ce qu'on attend d'ASML, délivrer du solide, de la qualité. En 2025, le groupe affiche plus de chiffres d'affaires, plus de bénéfices et plus de dividendes. Le bénéfice net grimpe à 9,6 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires à 32,7 milliards. Globalement, pile dans les clous des attentes. Pas de feu d'artifice, mais pas de déception non plus. ASML reste ASML, régulier, cher et indispensable. Cerise sur le gâteau, le dividende est en hausse à 7,50 €. Message clair aux actionnaires, ça continue de bien se passer. Et pour la suite, la boîte voit encore plus grand. Pour 2026, ASML vise entre 34 et 39 milliards d'euros de ventes. Autrement dit, l'IA, les data centers et les semi-conducteurs avancés continuent d'alimenter la pompe. En résumé, ASML ne surprend plus, mais ne déçoit jamais. La croissance est là, la visibilité aussi. Et puis hier soir, LVMH a publié son trimestre et le message est clair. Ça tient, mais ça ralentit. En 2025, le groupe fait un bénéfice légèrement meilleur que prévu, malgré un climat économique et politique franchement pas terrible. Le résultat net recule de 13%, la marge baisse un peu, pénalisée par les devises. La mode et maroquinerie, le cœur du réacteur avec Vuitton et Dior, marquent le pas. Le chiffre d'affaires recule de 5%, mais en organique, la base est limitée. Pardon, la baisse est limitée à 1%. Et surtout, le quatrième trimestre surprend positivement, là où le marché a attendu une rechute. Géographiquement, les États-Unis tiennent, l'Europe ralentit, l'Asie va mieux, le Japon reprend son souffle après une année exceptionnelle. Et côté gestion, cash flow en hausse, investissement en baisse, dette nettement réduite. Le luxe n'est plus en euphorie, mais il n'est pas en crise non plus. LVMH avance au ralenti, mais reste largement devant le peloton. Et surtout, on constate une reprise en fin d'année. Et puis, comme la Fed est au centre du monde, on n'oubliera pas que Trump cherche toujours un patron pour la Fed et que, pour la 325e fois, le président a dit hier soir que ça allait venir bientôt. Le problème de cette lenteur, c'est qu'il cherche un mouton à cinq pattes. Il veut quelqu'un qui baisse les taux très vite, très très vite, mais qui reste, qui soit aussi crédible aux yeux de Wall Street, des marchés obligataires et des autres banquiers centraux. Autrement dit, obéir à Trump sans avoir l'air d'obéir à Trump. Résultat, 4 finalistes, aucun parfait. Il y a Kevin Assett, l'homme de confiance, ultra aligné avec Trump. Problème, c'est qu'il est trop proche. Nommer son propre conseiller ferait hurler sur l'indépendance de la Fed et pourrait affoler les marchés. Même Trump hésite. Et puis il y a Kevin Warsh, ancien de la Fed, bien coiffé, bien installé, très establishment, mais inflation hawk, proche de Druckenmiller. Pas vraiment fan des baisses de taux massives, pas très Trump compatible. Il y a ensuite Christopher Waller, gouverneur actuel de la Fed, crédible, apprécié par Wall Street, plutôt pro-baisse des taux, mais pas de lien personnel avec Trump et un entretien qui n'a pas marqué les esprits. Et puis il y a Rick Rieder, l'outsider, monsieur obligataire chez BlackRock, 3000 milliards sous gestion, pro-baisse des taux depuis toujours, crédible, constant, mais zéro ADN Trump et quelques casseroles politiques côté électorat MAGA. Le fond du problème est donc là. Trump veut quelqu'un qui lui dise oui avant et qui continue de lui dire oui après. Or, l'histoire montre que les présidents se trompent souvent. Powell en est la preuve vivante. Pour l'instant, Trump temporise. Powell est encore là jusqu'en mai. La Fed ne baisse pas les taux cette semaine et la frustration monte. Conclusion, Trump veut contrôler la Fed sans casser la confiance des marchés. Et pour l'instant, il n'a toujours pas trouvé le mouton magique. Du côté des chiffres du jour, nous aurons donc les chiffres d'AT&T, de Corning, qui vient de signer un deal de 6 milliards avec Meta, comme quoi Meta a encore du pognon. Il y aura aussi General Dynamics, Starbucks, Lam et IBM, en plus des trois usual suspects déjà annoncés, Meta, Microsoft et Tesla. En Europe, nous aurons Volvo et Lonza. Et pour le reste, au cas où vous ne le saviez pas, ce soir, il y aura la Fed. Passez une belle journée malgré ce temps immonde, et nous on se revoit demain pour de nouvelles aventures et pour décortiquer la Fed. À demain et bonne chance.